Ne te lève pas.
Quoi ?
Il vient de se réveiller dans la couchette. Il doit faire beau dehors, car une douce lumière filtre depuis le bas du camping-car. Visiblement, Johan est réveillée aussi, mais elle est immobile sur le matelas, les yeux fixés au plafond.
« Ne te lève pas !»
répète-t-elle. « Profites-en pour expérimenter l'état de pleine conscience. » Il fait un effort pour ne pas avoir l'air trop exaspéré et se laisse retomber en arrière.
« Bon ?»
Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a très faim, qu'il a envie d'avaler ses tartines.
« Essaie de ressentir chaque partie de ton corps contre le matelas, ton corps qui se réveille lentement après une nuit de sommeil, ta respiration, la lourdeur de tes paupières. C'est un moment précieux, le réveil. On est encore à moitié enveloppé par le sommeil. On a toute la journée devant soi. Rien ne presse. On peut prendre tout son temps. »
Il s'exécute, plus pour lui faire plaisir qu'autre chose.
« Johan, je sens une lourdeur. »
Il la voit esquisser un sourire satisfait.
« C'est bien, c'est normal. Tu commences à apprivoiser tes sensations. »
« Une grosse lourdeur au niveau de mon ventre. »
Ses paupières tressaillent.
« Hein ?»«
Ouais, comme un truc qui pèserait 2 kilos et qui ronronnerait. »
Elle ouvre totalement les yeux et se redresse cette fois. Elle découvre Poc qui est venu s'asseoir sur le ventre d'Émile, roulé en boule, et qui ronronne avec délectation.
T'es bête.
C'est pas moi.
Allez, je me lève, tant pis pour toi.
Mais Johan, c'est pas moi, c'est Poc.
C'est trop tard, elle est en train de ramper au bout du matelas.
Il est venu me déconcentrer.
Elle est déjà en train de descendre l'échelle.
T'étais pas concentré de toute façon.
C'est faux, Johan.
Elle a disparu. Il ne peut s'empêcher de rire, en essayant de le faire le plus silencieusement possible.
« Johan, tu perturbes mon réveil en pleine conscience. Tu brouilles mon karma. Je ne te capte plus, Johan. Tes mauvaises ondes créent des interférences. »
Il rit comme un gamin, et il est persuadé qu'elle aussi, elle sourit en bas.
« À ton tour. »«
J'ai pas d'inspiration. » »«
Quelques mots suffiront. »
Ils sont assis dans un petit café du centre-ville. Johan lui tend la carte postale qu'ils ont achetée pour Sébastien. Elle représente une vue aérienne de Bages. Au dos, elle a rédigé quelques lignes d'une écriture soignée.
Cher Sébastien, nous voilà sur le départ. Nous avons vraiment apprécié de découvrir la ville de Bages sur tes bons conseils. Les plages ici aussi sont authentiques et sauvages, comme tu dois déjà le savoir. Lucky aurait adoré y chasser les goélands. Je n'ai pas réussi à peindre beaucoup ici. Le temps était souvent à la pluie. J'espère pouvoir m'y remettre lorsque nous serons à Gruissant, au bord de la mer. Je t'embrasse, Johan.
Émile relève la tête et fixe Johan avec un air moqueur.
Je t'embrasse ?
Elle lui lance un regard noir.
Tendre baiser, c'était mieux. T'aurais même dû écrire « tendre baiser humide ».
Elle lui jette son stylo en pleine tête et il se baisse à temps pour l'éviter.
« Écris !»
ordonne-t-elle. Il adore quand elle prend cet air autoritaire.
« Après ça, il y aura cette carte pour Myrtille. »
Il a griffonné quelques mots à Sébastien.
« Notre escapade continue. Comme promis, voici la première carte d'une longue série, je l'espère. Le froid nous arrêtera probablement pour quelques mois. Prends bien soin de toi. » À bientôt, Émile.
Puis il a pris un soin tout particulier à écrire à Myrtille, tout en réalisant à quel point la vieille dame lui manquait. Chère Myrtille, notre route nous a menés tout près de la mer, à Bages, une ville de pêcheurs et de viticulteurs, perdue au milieu des étangs. Johan s'est mise à la peinture sur toile. Elle se débrouille vraiment bien. Poc s'habitue tout doucement à l'air marin. Il a fait la connaissance de Flamand Rose et de Goéland et d'un gentil labrador nommé Lucky. Il est même monté à bord d'une petite barque de pêcheur. Hier matin, Johan lui a acheté un loup, tout juste ramené de la pêche. Et vu la vitesse à laquelle il l'a englouti, je crois qu'il a adoré. Nous pensons très souvent à vous et nous sommes pressés de vous revoir pour Noël. Embrassez Canaille pour nous et dites-lui que nous prenons bien soin de son petit. Toutes mes amitiés, Émile.
La carte postale pour Myrtille représente les ruelles de Bages et sa fameuse porte du cadran solaire. Il s'agit d'une très vieille porte en pierre, en arcade, permettant l'accès au village sur la place de Bages. Un cadran solaire a été gravé dans la pierre. Un écriteau au bas de la porte explique que Louis XIII a offert ce cadran au village en 1642 pour remercier les habitants d'avoir accueilli et soigné les soldats blessés au retour de la guerre d'Espagne.
21 octobre, 12h11. Assis à la petite table pliante devant le camping-car. Ville de Gruissant sous un soleil éclatant. Le beau temps est revenu pour notre arrivée à Gruissant. Il fait chaud ce matin, sans doute pas loin de 20 degrés. Et ça y est, nous voyons la mer. Je suis pressé d'aller visiter le village. D'après un vieux monsieur que nous avons croisé en stationnant le camping-car, il s'agit du seul village portuaire en circulade de tout le Languedoc-Roussillon. Village en circulade, ça signifie que tout le village est bâti en cercle autour d'une église ou d'un château fort. Pour Gruissant, c'est autour du château. C'est un village rond, quoi. Il paraît que l'invention vient d'un architecte d'origine polonaise. J'ai hâte d'aller voir ça. Ce soir, Johan m'initie à la méditation à la bougie. Il s'agit de se focaliser sur la flamme, de la contempler et de laisser filer toutes ses pensées pour lâcher prise. Elle n'abandonne pas, malgré le piètre élève que je fais. Ce soir, je le promets, je vais essayer d'être là et parfaitement là. Je me concentrerai. Cet après-midi-là, il déambule dans les ruelles, il découvre le quartier historique de Gruissant, son église, Notre-Dame de l'Assomption, son château, ses ruelles typiques. Ils terminent leur promenade sur le port de Gruissant, rive droite. C'est la partie moderne du village. On y trouve le port de plaisance et ses 1300 bateaux, la capitainerie et de nombreux commerces, boutiques, restaurants, bars, glaciers. Un soir, malgré la fatigue, Émile ne faiblit pas. Il est concentré sur la flamme de la bougie qui vacille faiblement dans l'obscurité du camping-car. Il s'efforce de ne pas fermer les yeux, de ne pas cligner des paupières. Un léger voile s'est formé devant ses yeux qui brouille légèrement l'image, mais ça n'est pas grave. Il croit ressentir ce dont Johan parle. Cet état de légère léthargie, ce vide en lui, cette unique préoccupation pour l'objet de contemplation, la flamme. L'image s'est imposée à lui sans qu'il le veuille. Cette flamme est la lumière, l'énergie. Elle est la vie qui vacille, qui tremblote, qui s'efforce de tenir bon contre les vents qui la menacent. Et il ne voit plus qu'elle, il la ressent en lui, il respire au rythme de ses frémissements. Il se sent presque fusionné. Il est perplexe lorsque Johan finit par souffler sur la flamme.
« Je crois que j'ai réussi, » dit-il.
Sa propre voix lui paraît lointaine et extrêmement blanche, comme si elle remontait des profondeurs. Johan hoche la tête avec gravité.
« Je crois aussi, ça fait une heure. »
Il reste de longues minutes immobiles dans l'obscurité. Johan dort déjà lorsqu'il se remet enfin en mouvement, lorsqu'il la rejoint dans la couchette, toujours aussi perplexe.
« Émile ?»
La voix faible de Johan le tire doucement de son sommeil.
« Émile ?»
La voix est lointaine, comme si Johan se trouvait loin d'ici. Pas sur la couchette, en tout cas.
« Je crois qu'on a un problème !»
Il n'a plus dormi aussi bien depuis des années entières. C'est grâce à cet exercice de méditation à la bougie. Il a dormi comme une pierre. Il ne s'est pas retourné ni réveillé une seule fois dans la nuit. Il se sent reposé comme rarement et apaisé. Cette constatation le met d'excellente humeur.
« Émile, tu m'entends ?»
reprend la voix de Johan extrêmement étouffée.
« Ouais, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe ?»«
Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vidé le bac du camping-car ?»
Il ne comprend pas vraiment sa question. Il rampe tout au bout du matelas jusqu'à l'échelle en corde.
« Le bac ? Mais où tu es, Johan ?
T'as pas le droit de rire, d'accord ? Promets-moi que tu te moqueras pas.
Il pose un premier pied sur l'échelle. Il n'arrive pas à faire le lien entre les différentes phrases décousues de Johan. Mais où elle est à la fin ?
Quelle bague, Johan !
Il est arrivé en bas. La porte de la minuscule cabine de salle de bain toilette est entrouverte et une drôle d'odeur flotte.
T'es là-dedans, Johan ? Qu'est-ce qui se passe ?
Il voit son visage avant même d'entendre sa réponse. Il est barbouillé par on ne sait quel masque de beauté, comme de l'argile, et elle semble sur le point de pleurer ou de vomir. La petite voix étouffée de Johan s'élève.
Le bac des WC était plein, je crois.
Il sent quelque chose qui monte en lui, qui emporte tout sur son passage. Au début, il croit que c'est le dégoût, mais ses épaules commencent à être agitées de soubresauts.
Non, Émile, t'as promis, tu as...
Mais il sent les spasmes qui arrivent. Il tente de se contrôler et lui demande le plus sérieusement du monde.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il fixe un point au-delà des épaules de Johan pour ne pas voir son visage barbouillé, son pull noir tacheté de marron, les larmes de dégoût qui perlent au coin de ses yeux.
J'ai voulu tirer la chasse et tout est remonté.
Alors c'en est trop. Il ne peut plus se retenir. Le rire dément franchit ses lèvres. Des spasmes incontrôlables l'emportent dans le fou rire le plus violent qu'il ait jamais connu. Il s'étouffe, il hoquette, et les faibles protestations de Johan
« T'as pas le droit, Émile !»
ne font qu'amplifier son hilarité. C'est la scène la plus drôle qu'il ait jamais vue. Johan recouverte de caca. Johan qui semble à deux doigts d'éclater en sanglots, mais qui se met à rire elle aussi, parce que c'en est trop, parce que ses nerfs lâchent.
« Ferme les yeux, Johan !» ordonne-t-il entre deux hoquets.
« Ferme les yeux et vis la scène en pleine conscience !»
Il ne parvient plus à reprendre son souffle. Il est plié en deux, les abdominaux en feu.
« Concentre-toi sur l'odeur, sur la texture !» Sur la chaleur de la merde sur ta peau. Va mourir.
Il rit à n'en plus pouvoir pendant 2-3 minutes, peut-être 4, sans s'arrêter, sans réussir à reprendre leur souffle. Il rit à en avoir la gorge brûlée, les yeux remplis de larmes. Il rit à finir par terre, à genoux, parce qu'ils ne tiennent plus debout. Bon sang, songe Émile, quand il parvient enfin à reprendre son souffle. Ça, c'est la meilleure thérapie du monde.
Regarde, Johan, regarde ce que j'ai trouvé.
Ce matin, sur la rive gauche du port de Gruissant, nommé Mateil, a lieu un grand vide-grenier. Cela fait 3 jours qu'il voit les affiches « Grand vide-grenier de Mateil » un peu partout dans la ville, tandis qu'il la parcourt de long en large. C'est Émile qui en a eu l'idée.
On pourrait y faire un tour. On trouverait peut-être de quoi décorer encore le camping-car.
Il a été fier de lui quand il a vu la mine enthousiaste de Johan.
« J'adore les vides-greniers »,
avait-elle répliqué. Il s'en serait douté. Ce matin, alors, ils se sont levés à 7 heures. Cela fait déjà 1 heure qu'ils sont sur le bord de la plage, parcourant les stands remplis de vieilleries. Émile vient de dénicher un miroir soleil en métal doré à peine rouillé. Il est sûr qu'après quelques minutes de nettoyage, le miroir sera comme neuf.
« Ah !»
fait Johan en le rejoignant.
« Qu'est-ce que t'en dis ?» On pourrait le mettre au-dessus de la banquette ?
Oui, il est vraiment beau.
Il s'aperçoit qu'elle tient quelque chose entre ses mains.
Et toi, qu'est-ce que t'as déniché ?
Elle lui tend l'objet qu'elle tenait précieusement. C'est une authentique théière chinoise en porcelaine, recouverte de motifs floraux bleus et blancs.
Comme on boit beaucoup de thé, j'ai pensé...
Il l'interrompt avec enthousiasme.
Génial ! On pourrait dénicher de jolies petites tasses en porcelaine maintenant.
Johan acquiesce. Il la voit repartir avec hâte. Plus loin, il y a un stand qui déborde de vieux livres. Elle s'y arrête. Près de 2 heures plus tard, ils se retrouvent sur la plage de sable fin et ils déversent le contenu de leur sac plastique pour faire l'inventaire de ce qu'ils ont trouvé. Johan a déniché 10 de livres jaunis par le temps, une minuscule lampe à pétrole en laiton, plutôt jolie, et un affreux chandelier en bronze dont Émile prétend qu'il le trouve charmant et authentique, mais qu'il espère voir rester au fond d'un placard.
« Et toi ?» demande Johan.
lui a déniché, en plus de son miroir soleil, 4 tasses en porcelaine pour le thé, dont aucune n'est assortie. L'une d'entre elles est en porcelaine de Chine et représente des dragons verts. 2 autres sont en porcelaine anglaise et décorées de roses rouges surmontées d'un liseré doré. La dernière est en porcelaine de Saint-Pétersbourg, comme l'a expliqué le vieux monsieur qui la vendait, et elle est ornée de motifs bleus et or. Leurs objets déposés sur la table forment un bric-à-brac total, un mélange de couleurs et de matières un peu criard, mais ils sont heureux tous les deux. Ça amènera un tourbillon de vie dans leur petit chez-eux. 29 octobre, 2h07. Assis à la table du camping-car sur la banquette. Gruissant, à la lueur de la bougie. Je ne crois pas avoir été aussi heureux que depuis que je suis avec Johan au bord de la mer. C'est un bonheur tellement simple, tellement banal. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi serein. Même si je vais mourir bientôt. Même si je vais m'éteindre sans souvenir. Je crois qu'elle a finalement réussi à m'apaiser. Avec sa méditation à la con, ou juste avec son calme, sa façon étrange et si douce d'aborder la vie. Bon sang, je suis heureux d'être tombé sur elle sur cette aire d'autoroute. Ça ne pouvait être qu'elle. Ce voyage sans but, sans contour, n'aurait pu avoir de sens ni de consistance sans Johan. Elle lui a donné des couleurs, un relief. Elle en a fait une quête. Une quête au fond de moi-même. Une quête au fond de nous-mêmes. Je vais bientôt mourir et je ne me suis jamais senti aussi en paix avec moi-même. Je porte un nouveau regard sur moi, sur le jeune homme un peu stupide que j'ai été, mais ce regard est bienveillant. Je me sens grandi grâce à ces quelques mois. Je me sens élevé. Aujourd'hui, je veux m'élever encore. Je veux continuer à lire ces citations dans les bouquins jaunis de Johan et les méditer le soir venu à la lueur de la bougie. Hier soir, j'étais plongé dans un des vieux livres jaunis que Johan avait ramené du vide-grenier. Ils étaient pour moi, ces livres. C'étaient des bouquins de citations. Elle me les a offerts quand on revenait au camping-car. J'ai trouvé une citation si belle que j'ai été réveiller Johan pour la lui dire. Elle était endormie sur la couchette. La citation disait « Si nous pleurons parce que le soleil n'est plus là, nos larmes nous empêcheront de voir les étoiles. » Je lui ai dit que c'était grâce à elle que j'avais compris ceci, grâce à sa façon de vouloir m'ancrer dans le présent. Je lui ai dit que maintenant, grâce à elle, je voyais les étoiles. J'ai cru l'entendre renifler, mais je n'en savais trop rien, il faisait tellement sombre. Elle est restée silencieuse de longues minutes, et après ça, elle m'a demandé de la recopier au-dessus de nos têtes, sur le plafond de la couchette. S'il existe un paradis, un lieu tout là-haut où reposent les morts après cette vie sur terre, alors j'en fais la promesse solennelle. Je m'arrangerai pour veiller sur elle, pour ne jamais vraiment l'abandonner.